Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, et spécialement chères filles qui allez faire tout à l'heure votre profession solennelle et votre commune solennelle, à l'occasion de ces deux cérémonies, la communion solennelle et la profession de foi, on pourrait se dire, à première vue, qu'il n'y a aucun lien entre les deux choses. La profession de foi ne serait-elle pas mieux placée le jour de la confirmation? Parce que la confirmation, c'est le sacrement qui donne la force pour professer la foi. C'est le sacrement de l'apostolat, du zèle, du dévouement. Et puis, la communion n'est-elle pas le sacrement de sanctification plutôt personnelle, un sacrement plus intime, plus individuel? Eh bien, non. Donc, la communion aussi implique un engagement au service de l'Église, de zèle pour répandre la foi. Par chaque communion, nous renouvelons nos promesses de baptême et nos engagements de confirmation. Le fait de s'avancer vers la table sainte est une manière de déclarer publiquement que nous voulons mettre foi en pratique et œuvrer pour le bien commun de l'Église. Mais en même temps, et heureusement d'ailleurs, l'Eucharistie nous donne les grâces nécessaires pour le faire, pour vivre notre foi. Alors d'abord, voyons que la communion est un engagement au service de la foi et de la charité. Communier, c'est bien sûr d'abord manifester un désir de s'unir au Christ. Mais par le fait même, c'est désirer s'unir aux membres du Christ, aux membres de son corps mystique, aux membres de l'Église, nos frères. Rappelons-nous tout le symbolisme de l'hostie. Saint Paul disait aux Corinthiens, « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain consacré, nous faisons un seul corps tout en étant plusieurs, car nous participons tous à un seul pain. » Saint Paul, dans ce passage, s'appuie sur le fait que manger à la même table, surtout à des banquets sacrés à l'époque, constituait une parenté, ou au moins une alliance. Et de tous les temps, partager un repas est signe d'amitié et de l'accord des volontés. Alors, combien plus cela devrait être vrai ou est vrai quand il s'agit du pain eucharistique? Car dans l'Eucharistie, nous ne prenons pas seulement des parties distinctes et séparées d'un seul aliment, mais nous prenons le même Christ tout entier qui vient dans chacun de nous, qui s'identifie à chacun pour nous rapprocher les uns des autres. Et puis, tout le monde le sait, notre Seigneur n'a pas choisi par hasard le pain pour faire ce sacrement. Saint Augustin dit en commentant le passage de Saint Paul que nous avons cité, il dit, « Ce pain est-il fait d'un seul grain? N'est-ce pas d'une multitude? Mais s'ils étaient séparés avant de devenir du pain, on les a réunis avec de l'eau après les avoir moulus. » Donc c'est le pain qui est un, fait de plusieurs grains, symbolise l'unité dans l'Église. Malheureusement, depuis le péché originel, cette union avec les autres, même avec nos meilleurs amis, même avec notre famille, cette union implique certains sacrifices. Il faut supporter les défauts des autres et il faut lutter contre nos propres défauts. Saint Augustin l'avait remarqué dans cette citation que nous avons lue. Les grains ne sont réunis qu'au prix d'être moulus, broyés. Cela veut dire renoncer à nos rancunes, savoir pardonner, renoncer à notre égoïsme pour rendre des services dans la maison, renoncer à notre confort, notre tranquillité, nos caprices, rester patient avec les plus petits. Et c'est aussi, et cela a un rapport plus étroit avec la profession de foi, la communion implique de refouler notre respect humain pour manifester notre foi dans nos attitudes, dans le choix de nos loisirs, dans notre vêtement même, et avoir le courage de faire connaître la vérité autour de nous. Monseigneur Cuttaz, dans un très beau livre, Pain vivant et pain de vie, avait ceci à dire par rapport à ce lien entre la communion et l'apostolat. L'Eucharistie est une nourriture et en tant que telle doit profiter de quelque façon à tout le corps mystique du Christ, comme c'est tout notre corps qui profite de chaque aliment matériel que nous absorbons. C'est toute l'Église qu'elle doit, de quelque sorte, nourrir et faire croître. Or, comment le peut-elle, sinon par le zèle et l'action apostolique de chaque communion, à qui elle communique sa force d'expansion. Très strictement, elle tente à donner à tous les chrétiens une âme missionnaire. Le nier serait nier son rôle de nourriture complète dans un organisme non encore achevé. Le souci missionnaire n'est pas une pratique surajoutée à la communion sacramentelle, mais la réponse normale et saine de l'âme, à l'exigence du pain eucharistique, la disposition de l'organisme jeune et qui grandit. Donc, d'après tout ce que nous venons de voir, la communion est quelque chose d'exigeant. On aurait quelques raisons d'hésiter avant d'y aller si la communion ne donnait pas en même temps d'abondantes grâces pour accomplir tous ses devoirs. Car l'Eucharistie est un sacrement, et comme tous les sacrements, elle réalise ce qu'elle symbolise. Saint Thomas dit que la communion au corps réel du Christ à la messe produit l'unité du corps mystique du Christ. Et c'est ce qu'on doit voir maintenant. Comment la communion nous aide à vivre selon les exigences de notre foi? Elle le fait d'abord en étant un principe de charité, une source de charité. Toujours d'après saint Thomas, l'effet spécial de l'Eucharistie est d'éveiller la charité et la maintenir en acte. C'est la charité, non seulement comme habitude, mais dans les actes qui sont excités par ce sacrement. En plus clair, cela veut dire que l'Eucharistie confère la charité non seulement sous forme de disposition habituelle, mais surtout sous forme d'élan qui entraîne à l'action. C'est une charité qui nous presse, comme dit saint Paul. Et c'est pourquoi la communion n'est pas simplement un renforcement des grâces du baptême. C'est plus. Le baptême nous donne la grâce de manière plus statique. Il nous met dans l'état de grâce. Mais l'Eucharistie nous communique un élan. Elle ne fait pas seulement augmenter la charité, elle l'intensifie. Et c'est pourquoi les oraisons de la messe et puis les saints, on parle souvent d'une sorte de feu qui est allumé dans nos cœurs par la communion. Saint Bonaventure a appelé la communion, il a appelé l'hostie, carbo ignitus, un charbon enflammé. Donc l'Eucharistie est un principe de charité qui intensifie notre amour de Dieu et du prochain. Et deuxièmement, ou plutôt, en fait, ça découle tout naturellement du fait que ce soit une source de charité, la communion est un principe d'activité spirituelle. Saint Thomas dit, elle nous pousse à l'action. Et cela n'est pas difficile à comprendre. Pour celui qui aime, tout effort devient facile. L'imitation de Jésus-Christ a de très beaux passages à ce sujet. Qui aime vole, il est libre, rien ne le retient. Il est capable de tout, il entreprend et accomplit des prodiges là où défaille et succombe celui qui n'aime pas. Et ceci a été le secret de l'activité débordante de tous les saints et de toutes les âmes chrétiennes dévouées dans toute l'histoire de l'Église. C'est le secret des mères de famille nombreuses qui tiennent le coup grâce à la communion, d'un saint curé d'Ars qui dormait presque pas et qui passait toutes ses journées au confessionnal ou dans les activités. C'est le secret des sœurs de charité qui se dévouaient pendant toute une vie pour les malades. Les athées même au XIXe siècle étaient obligés de reconnaître, quand ils avaient chassé les religieuses des hôpitaux, qu'il fallait 4 femmes pour remplacer une seule sœur de la charité. Et au contraire, nous pouvons dire, toujours avec Mgr Cuttaz, qu'à partir de rares exceptions, ils ne seront jamais en santé morale florissante ceux qui ne communient pas. Jamais ils ne se feront un tempérament d'âme vigoureux et ne seront capables de grandes tâches et d'héroïques vertus. Ne se nourrissant pas, ils ne sauraient être autre chose que des anémiés, des languissants et des faibles. Mais, chère fille, aujourd'hui, les languissants et les faibles sont emportés par le courant du monde et ils ne se sauveront que par miracle. Aujourd'hui, c'est l'héroïsme ou la mort spirituelle. Donc, pour conclure, ne pensons pas que les deux cérémonies d'aujourd'hui seront achevées avec l'action de grâce après la messe. Ce n'est que le commencement de toute une vie de dévouement généreux dans vos familles, à l'école, auprès de vos camarades et un jour dans la société. Il faut communier comme les Hébreux mangeaient l'agneau pascal, debout, ceinture au rein, bâton en main, sandales aux pieds et prêts à partir pour un long voyage. Souhaitons pour vous et pour nous tous, que la communion fréquente nous donnera la force d'accomplir tous les devoirs exigés par la foi que nous avons tous professés au baptême et que vous allez professer solennellement dans quelques instants. Et puis demandons, bien sûr, cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.